voici encore plein de choses intéressantes. Ou pas. Le retour de Courgette. 95.7 Kick. Saguenay.
Alors, Béa, t'allais boire du Nespresso à l'hôtel de ville.
Ben, je non, j'en ai pas bu.
J'en ai pas bu, OK.
Mon café était pris. Bon. Moi, je suis le genre de gars, faut pas qu'il prenne 3-4 cafés d'une journée. Sinon, on m'a tout défoncé. Comprends-tu?
Oui, Alex, tu veux rajouter quelque chose?
Non.
Non? OK, parfait.
J'ai plein de gags qui me viennent en tête. Oui. Puis, on a eu une entrevue sérieuse.
Voilà.
On va passer 5 ans.
Et nous sommes à heure de grande écoute. Pourquoi les gens de Nespresso sont débarqués à l'hôtel de ville? Ils veulent convertir les employés à leur café?
Ou... Non, ben ils sont venus nous annoncer leur programme dans la région parce qu'ils ont un programme de recyclage avec un sac vert qui a été distribué déjà dans plusieurs municipalités du Québec, à plusieurs endroits au Canada. Donc, c'est-à-dire que les utilisateurs, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prendre leur capsule de Nespresso, les mettre dans le sac qui va arriver par courrier parce qu'il faut le demander. Puis il y a comme une liste de clients sur le web, donc eux vous envoient les sacs et après vous les recevez. Vous mettez ça là-dedans et dans les différents centres de tri, ils vont être capables de prendre les sacs et de les renvoyer à la compagnie pour qu'eux fassent le tri puis le recyclage. Okay. Donc c'est du clé en main. Mais là maintenant, c'est au Saguenay-Lac-Saint-Jean depuis maintenant.
Il semblerait que ces capsules sont moins nocives pour l'environnement, mais ça, c'est selon une analyse qui a été commandée par un consortium canadien d'entreprises d'emballage. Alors, semble-t-il que la dosette génère 198 grammes de CO2 par tasse contre 330 grammes pour la tasse préparée avec ma bonne vieille cafetière filtre. Moi, j'ai toujours eu la perception que la bonne vieille cafetière filtre était plus écologique.
Moi aussi.
Bon, alors on va aller en discuter avec Karel Ménard, qui est directeur général du Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets. Bonjour, M. Ménard.
Oui, bonjour, M. Courchaine.
Je suppose que vous n'avez pas une machine à dosette au bureau.
En fait, je ne bois pas de café. J'en prends juste un bon gros le matin avec ma bonne vieille cafetière et ça s'arrête là.
Oui, alors on a vraiment l'impression aujourd'hui là, qu'on est au pays des Calinours, que c'est merveilleux, que ça se recycle à l'infini, parce que la dosette, en fait, celle de Nespresso, elle est faite avec de l'aluminium de la région. On dit que même le café, ce qu'on appelle le MARC, M-A-R-C, peut servir à fertiliser les champs des agriculteurs. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, du côté du Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets?
Ben, je suis pas contre le café, quoique on devrait peut-être boire des produits qui poussent ici, des produits locaux, mais je peux pas empêcher les gens de prendre du café s'ils en veulent. Mais toutes ces petites dosettes-là à café ou autres produits, c'est du suremballage, point final. C'est-à-dire, on consomme à travers la planète environ 40 milliards de ces dosettes-là. Ça commence à faire beaucoup. Et ça coûte extrêmement cher aussi. Oui, c'est recyclable, mais tout est recyclable dans la vie. Ça veut pas dire que ça va être nécessairement recyclé. Les dosettes de café, je connais le principe dans le sac vert que vous mettez dans le bac de récupération, ça s'en va ensuite à Saint-Jean-sur-Richelieu, une usine qui fait du conditionnement, si on veut, parce qu'ils ne recyclent pas eux-mêmes la matière. Donc, ils vont séparer l'aluminium du marc de café pour trouver des preneurs pour ça, mais on n'a pas plus d'informations là-dessus.
OK. Est-ce qu'il y a d'autres produits de ce genre-là qu'on a vu apparaître sur le marché au cours des dernières années qui pourraient être problématiques du côté de l'environnement?
Ben de plus en plus, tout ce qui est surtout au niveau de l'alimentation, toutes les portions sont maintenant individualisées. Ça veut dire on fait plus la cuisine parce qu'on n'a plus le temps, parce qu'on est trop pressé, donc on achète des portions déjà toutes préparées d'avance. Et ça, c'est du suremballage. Souvent, c'est des produits qui sont transformés, donc trop gras, trop sucré, trop salé. Donc, pour la santé, c'est pas nécessairement ce qu'il y a le mieux. Au niveau du café, oui, peut-être qu'ils disent que c'est l'empreinte environnementale est moins élevée. J'imagine quand ils considèrent uniquement l'utilisation du courant que prend la machine versus la bonne vieille cafetière.
Oui,
l'eau aussi utilisée, ça prend moins d'eau, effectivement, pour faire un espresso avec ces petites dosettes-là. Mais j'imagine que ça ne prend pas en considération l'impact environnemental de la machine en tant que telle, qui dure peut-être un an ou deux, puis après ça, on la change parce que soit elle est brisée ou c'est plus la mode.
Ouais.
On pense pas non plus au suremballage que ça implique, parce que les dosettes, bon, faut les emballer elles-mêmes, puis il faut emballer aussi les dosettes dans un contenant pour pouvoir les transporter. Je pense pas que ça prenne ça en considération. En fait, j'aimerais bien voir l'étude. Donc, me faire dire qu'un produit jetable est bon pour l'environnement, moi, j'ai toujours du mal avec ça.
Il y a la semaine dernière, il y a un professeur à Alma qui a fait une étude, s'est présenté dans un McDonald's, pour ne pas les nommer, qui est arrivé avec son cabaret, il dit, bon, parce qu'on parle de suremballage, il dit, ben, écoutez, moi, là, mon cheeseburger, mon Big Mac, mettez-moi ça dans le plateau, même pas de napperon. Il n'a pas été capable de se faire servir. Il est allé en face chez IW. Finalement, il a réussi à obtenir son repas sans suremballage. Est-ce que vous pensez que ces grandes chaînes-là pourraient en faire davantage?
Mais IW fait quand même des efforts. Hein, au niveau de l'alimentation rapide, là, c'est une chaîne là, qui fait des efforts. Il n'y a rien de jetable, à ma connaissance, ou presque pas de jetable chez IW. Là, c'est soit recyclable ou compostable. Même chose chez Saint-Hubert. Ils font quand même des efforts. Je crois qu'ils sont sincères. Au niveau d'autres grandes chaînes, comme vous avez nommé, oui, effectivement, il y aurait beaucoup de progrès à faire. Je pense qu'il n'y a même pas de poubelle pour le recyclage là, chez la plupart des grandes chaînes d'alimentation rapide. Et ça, je ne veux pas dire que c'est un problème parce que il y a des grandes chaînes aussi qui vendent du café, je les nommerai pas, qui avaient des bacs de récupération dans leur magasin. Et on s'est rendu compte en bout de ligne que les sacs de poubelle et les sacs de matière recyclable étaient à la fin de la journée mélangés ensemble et envoyés au dépotoir. Donc, c'est pas parce qu'on a un bac de recyclage dans le magasin que ça va nécessairement être recyclé. Et il faut faire attention lorsqu'on dit qu'un produit est recyclable. C'est justement, est-ce que vraiment ça va être recyclé? Donc, c'est pas parce qu'il y a un petit ruban de Mobius dessus que c'est un produit écologique. Souvent, c'est du marketing, là, c'est de la mise en marché, simplement.
Ouais, et vous parlez de marketing, je peux vous dire une chose, on regardait les nouvelles là, au niveau local aujourd'hui, je peux vous dire que Nespresso, ils font tout qu'un tour. Là. On voit leurs produits, on est nous-mêmes en train d'en parler présentement. Donc, il y a aussi une stratégie derrière tout ça.
Ben oui, puis peut-être que vous allez recevoir une machine en prime, puis tout le monde va se mettre à consommer les petites capsules Nespresso, donc vous allez être otage de la machine dans votre studio. C'est aussi des stratégies qui peuvent faire, mais effectivement, c'est une très grosse compagnie Nestlé, là, c'est-à-dire c'est une des plus grosses multinationales mondiales de l'alimentation, donc ils ont les moyens de le faire, et le fait d'avoir des sacs verts pour... de couleur verte là, qu'on puisse mettre dans les bacs de récupération. Aussi, c'est de la mise en marché. Moi, je trouve ça un petit peu problématique. Ça veut dire n'importe quelle compagnie va commencer à avoir son contenant spécifique dans le bac de récupération. Ça veut dire ça va peut-être semer la confusion au Québec là, sur qu'est-ce qu'on peut mettre ou non dans le bac de récupération. Il y en a qui vont peut-être mettre des dosettes aussi. Et ça, on l'a vu parce que le projet se fait à Montréal depuis quelques temps. Maintenant, ça a été lancé dans Chaudière-Appalaches. Ce que je comprends, c'est qu'ils sont en train de ratisser large à travers le Québec. Peut-être qu'il y a des gens qui vont des fois carrément mettre la dosette directement dans le bac de récupération. Et là, ça va être une cause de contamination pour les autres matières. Donc, il faut faire attention lorsqu'on autorise là, ou qu'on accepte d'avoir ce genre de produit-là dans le bac de récupération. Là.
Oui, et on a souvent la perception de notre bac bleu, tout est recyclé là-dedans. C'est vrai. Est-ce que vous avez une idée du pourcentage de ce qui est dans le bac bleu qui est vraiment recyclé? D'après moi, on ne doit pas dépasser les 50%.
En fait, c'est assez dur à dire. Ce qu'on appelle des rejets, là, ce qui va directement au dépotoir une fois que c'est arrivé au centre de tri, c'est environ 11%. Donc, et c'est pas nécessairement parce que le produit il est pas recyclable, c'est parce que c'est le mauvais produit dans le mauvais bac. Ça veut dire, par exemple, si vous mettez un jouet ou un crayon, c'est pas accepté par les centres de tri. Il faut vraiment que ce soit des contenants, des imprimés ou des emballages. Si vous mettez un petit câlin en plastique de votre enfant dans le bac de récupération parce que c'est du plastique, c'est une mauvaise réponse. Ça sera pas accepté par le centre de tri, donc ça va être considéré comme un rejet. Ça, c'est 11%. Mais une fois que un centre de tri, là, en passant, ne fait pas de recyclage. Un centre de tri va prendre les matières, va tenter de les trier du mieux qu'il peut et ensuite va faire des ballots de matières, de la fibre, du plastique, du métal, et ensuite va trouver des acheteurs. Actuellement, les marchés sont extrêmement,
frileux.
C'est dur, mais en fait, parce qu'ils sont pas là, les marchés. C'est-à-dire, il y a beaucoup de marchés qui se sont fermés depuis quelques années. Il y en a d'autres qui vont se fermer. Donc, c'est très dur de trouver des preneurs actuellement. Et lorsque vous vous débarrassez d'un ballot, par exemple, de fibres, c'est-à-dire de papier, de carton mélangé, celui qui va l'acheter ou celui qu'on va payer pour qu'il le prenne, parce que des fois, c'est ça qui peut arriver, je sais pas combien ils vont en garder vraiment. Ils vont faire un tri, un surtri. C'est-à-dire, trier le ballot qui va arriver chez eux, peut-être en Inde ou en Indonésie. Et, quel pourcentage de bons papiers ils vont garder, quel pourcentage ils vont jeter, ça je ne le sais pas. Donc, il n'y a pas de traçabilité au Québec sur la matière récupérée. On sait qu'au centre de tri, c'est environ 11% qui est jeté, mais ce qui va en aval chez les recycleurs ou les conditionneurs, ça, on n'a pas de données là-dessus. Donc, je ne peux pas vous dire combien de matière est véritablement recyclée dans ce qui est mis dans le bac de récupération parce que la donnée n'existe pas. Ce que je peux vous dire, c'est que les centres de tri n'en jettent en moyenne pas plus que 11%.
Êtes-vous courant si ces entreprises-là ont fait des études d'impact au départ? Tu sais, quand la fameuse capsule a été inventée, je peux pas croire qu'eux, dans les bureaux, se sont dit « Ah, c'est une bonne idée, allons de l'avant ». Est-ce qu'ils ont fait des études d'impact?
Ben, j'imagine qu'ils ont fait des études de mise en marché, absolument. Des impacts sur les ventes de la compagnie, j'imagine que oui. Des études sur les impacts environnementaux, certainement qu'ils en ont. Peut-être pour éviter, justement, s'il y a des gens comme vous qui posent des questions incisives et qui essayent de trouver la petite bête noire, ils vont pouvoir trouver la réponse parce qu'ils ont déjà fait des études là-dessus. Donc, les études, s'ils en ont, vont servir selon moi, davantage à pouvoir répondre à leurs détracteurs qu'à minimiser les impacts environnementaux. Oui, certainement, la question du sac vert, c'est une bonne façon d'aborder les municipalités en disant on va se charger de tout, ça sera plus de nuisance, ça va réduire les matières qui s'en vont au dépotoir et ainsi de suite. Donc, c'est de la mise en marché. Donc, je peux pas dire que c'est foncièrement mauvais là, pour de faire ça comme ça, mais c'est vraiment pas la meilleure des choses au niveau du café, ce qui serait vraiment la meilleure des choses, c'est acheter le café en vrac, le moudre à la maison et de se faire une bonne vieille tasse de café dans son bon vieux percolateur. Et éviter, s'il vous plaît, d'acheter des dosettes là, jetables à tout va, parce que c'est ultimement, c'est peut-être la pire des choses à faire au niveau de la consommation. Là.
Monsieur Ménard, c'était un plaisir de vous parler cet après-midi.
C'est réciproque.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Karel Ménard est directeur général du Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets.